Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, c'est vendredi, c'est le club des idées du grain. L'état de grâce n'est pas fait pour durer. S'agissant de La République En Marche, on retiendra peut-être la date du 4 février 2018 comme point de bascule. Ce dimanche-là, c'est-à-dire dimanche dernier, les deux candidats du parti présidentiel ont été battus lors des législatives partielles. Échec dans le territoire de Belfort, échec dans le Val d'Oise et premier gros avertissement. Et première lueur d'espoir d'ailleurs depuis longtemps pour la droite qui, le même jour, fait coup double puisque Les Républicains l'emportent dans ces deux circonscriptions, en améliorant au passage leur score des législatives de juin 2017. Laurent Wauquiez, depuis, en est persuadé. C'est la preuve que sa stratégie est la bonne. Il est le premier opposant, dit-il, à Emmanuel Macron. Alors l'est-il vraiment? A-t-il détrôné celui qui occupait le poste depuis le début du quinquennat, à savoir Jean-Luc Mélenchon, lequel est en effet plus discret depuis quelque temps? En tout cas, Jean-Luc Mélenchon et Laurent Wauquiez ne sont pas les seuls à s'opposer. Une petite musique est même en train de se faire entendre aujourd'hui dans la société civile autour du pouvoir d'achat, de la fonction publique, de la politique répressive du gouvernement à l'égard des migrants. Alors l'opposition, plutôt les oppositions, sont-elles de retour? C'est de cette question dont nous allons discuter ce soir en compagnie de Sylvain Bourmeau. Bonsoir.
Bonsoir Hervé.
La suite dans les idées, c'est chaque samedi à 12h45 sur France Culture. Vous êtes également à la tête du site AOC, analyse, opinion et commentaire.
Critique.
Pas commentaire.
Commentaire, c'est une revue.
Et j'ai voulu le faire tout seul pour une fois, mais j'y suis pas arrivé. Ça viendra. Notre deuxième intervenant n'est pas un des récurrents du club, mais il est journaliste politique. C'est Louis Osalter. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique à l'hebdomadaire Marianne. Et puis, nous attendons Judith Ventrop, qui est journaliste, elle, au Figaro Magazine. Ah, nous n'attendons plus. Elle vient d'arriver. Elle a trouvé le chemin jusqu'au Bel Air, puisque je vous rappelle, nous sommes en direct du Bel Air chaque vendredi à Radio France. Alors, avec vous trois, nous allons donc pouvoir évoquer déjà ces résultats électoraux de dimanche dernier. Est-ce que vous retiendriez d'abord Louis Osalter, la double victoire des Républicains, donc les deux postes, les deux mandats de députés qui sont remportés par les Républicains, ou bien la double défaite de La République En Marche?
J'en retiens d'abord ni l'un ni l'autre, j'en retiens l'abstention massive. Entre 70 et 80% d'abstention au premier tour, 70% dans le territoire de Belfort, 80% dans le Val d'Oise. Alors, c'est un phénomène assez classique dans le cadre de législatives partielles. On avait déjà noté en juin dernier la forte abstention lors des élections législatives, qui était pour le coup sur tout le territoire. Là, on s'aperçoit qu'il y a quand même une frange assez minoritaire des électeurs qui se sont déplacés et qui donc s'intéresse à des enjeux électoraux, certes locaux, certes mineurs, 7 mois, 8 mois après l'élection présidentielle.
Et vous l'interprétez comment cette forte abstention?
J'interprète comme un phénomène assez classique après une élection présidentielle et une forte période, une intense période électorale qui est celle d'une lassitude et d'un éloignement des Français vis-à-vis de la politique. Ils ont voté, il y a une campagne électorale qui a été très longue, une campagne présidentielle qui a été intense, avec une élection surprise, on va le dire, d'Emmanuel Macron, derrière des élections législatives qui donnent une large majorité au président. Et ensuite, les Français ont tendance, une fois qu'ils sortent de ce cycle électoral, à s'éloigner un peu de la politique et surtout à observer comment se comporte le pouvoir qu'ils ont légitimé à la fois par la présidentielle et par les législatives. Donc ces élections partielles, je pense qu'il ne faut pas extrapoler leurs résultats. Certes, symboliquement, c'est quand même important qu'une députée de la majorité tombe, qu'une députée de La République En Marche soit battue par un candidat des Républicains. Mais Laurent Wauquiez, qui s'est mis à crier « victoire » sur tous les plateaux, c'est évidemment de bonne guerre. C'est évidemment, il ne pouvait pas faire autrement en tant que chef de son parti. Mais ce n'est qu'une élection partielle, ce n'est qu'une députée sur 577. Donc j'en tirerai pas des enseignements politiques nationaux pour l'instant, même si c'est intéressant à observer, ça dit quelque chose d'un état d'esprit et surtout ça peut donner un petit coup de semonce pour La République En Marche et évidemment ça permet de conforter le moral de certains militants Les Républicains.
Alors je vous propose de rester encore un instant sur cette question de l'abstention, même si ça permet aussi d'évoquer d'autres thèmes. Judith Ventrop, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, journaliste au Figaro Magazine, vous avez longtemps suivi la droite pour le Figaro, pour le quotidien. Effectivement, donc, abstention extrêmement importante et dans le Val d'Oise et dans le territoire de Belfort. Est-ce que vous y voyez, comme Louis Osalter, le signe d'un éloignement de la politique ou est-ce qu'on peut aussi peut-être ajouter une forme de déception de l'électorat à l'égard de la majorité?
Les deux, en général. La forte abstention s'inscrit totalement dans le prolongement de ce qu'on avait observé à la présidentielle et aux législatives, c'est-à-dire le désamour pour l'ensemble des partis. Alors, à la présidentielle, même Macron, même s'il a réussi une sorte d'exploit, en tout cas quelque chose de totalement inédit sous la Ve République. Il n'a pas réussi un score faramineux au premier tour, donc on peut pas dire que même l'attraction qu'il a exercée a suffi à vaincre le désamour des électeurs et le discrédit des politiques en général. Donc ça se confirme. Et puis deuxième élément, ce parti encore quasiment neuf qu'est La République en Marche n'a pas d'ancrage local, et ça lui porte fortement préjudice dans des élections partielles.
Et parce que quand on veut faire campagne, c'est bien d'avoir un certain nombre de relais, oui, ce dont il se pose pas aujourd'hui La République en Marche.
La candidate du Val-d'Oise, je crois, avait reçu le soutien sur place d'Édouard Philippe. Sauf erreur de ma part, oui, c'est ça.
Et de Christophe Castaner qui s'était déplacé.
Oui,
les
non,
deux.
Mais je cite Édouard Philippe exprès parce que Édouard Philippe pensait, en se déplaçant, dissuader les électeurs de droite de se déplacer pour l'adversaire de droite de la candidate En Marche. Ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire quand même, si je peux sortir un tout petit peu de l'abstention, que c'est une victoire pour Laurent Wauquiez, ou en tout cas c'est un démenti. Si les candidats de droite avaient perdu, ça aurait été la défaite de Laurent Wauquiez. Hein. Vous connaissez l'adage, la victoire à mille pairs, la défaite est orpheline. Là, on aurait su à qui attribuer la défaite. Donc c'est un signe évidemment encourageant pour lui.
Sylvain Bourmeau.
J'ai envie de faire le lien entre les deux remarques précédentes, c'est-à-dire celle qui a trait à l'abstention et celle qui a trait à Laurent Wauquiez, aux Républicains. C'est-à-dire qu'au fond, tout est dit dans cette situation très très peu compréhensible, j'imagine, par beaucoup d'électeurs, qui consiste à voir un Premier ministre d'Emmanuel Macron, issu de la droite, venir faire campagne pour faire élire cette candidate. Je pense que l'abstention, elle a une composante historique, elle est la traduction d'une crise de la représentation qui est très ancienne, qui remonte bien avant la séquence électorale qu'on a connue l'année dernière, parce que il suffit de regarder la courbe depuis 30 ans, depuis 40 ans, puis ça ne concerne pas que la France, etc. Bon. Mais je crois qu'on peut faire l'hypothèse, peut-être, que vient s'ajouter à ça une abstention de la part d'électeurs qui, et on le serait à moins, sont un peu perdus face à l'offre politique, comme on dit, qui n'ont pas de repères, qui ne comprennent plus très bien. Il ne faut pas croire que, parce que Emmanuel Macron emploie cette expression et en même temps en permanence, le clivage droite-gauche a disparu du cerveau politique des Français. Ça reste probablement le moyen de s'orienter le plus répandu chez tous les citoyens français. Donc on ne peut pas faire comme si cette borne, ce clivage, avait cessé d'exister. Or, dans des situations comme celle-là, tout le monde est perdu. Et je crois que ça a pour première conséquence de faire croître l'abstention. Donc il y a un vrai lien entre les deux dimensions, à mon avis, c'est-à-dire cette nouvelle offre politique qui est difficile à comprendre, et puis le fait que, une élection locale comme celle-là, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, qui intervient après cette longue séquence électorale, c'est classique, que ça ne permet pas une mobilisation électorale forte. Maintenant, il ne faut pas se hâter de tirer des conclusions trop rapides sur des élections locales comme celle-là. Néanmoins, il y a un vrai mystère. Et on va attendre la suite.
Il va y avoir d'autres législatives partielles très bientôt.
Voilà. Et c'est comment, finalement, cette nouvelle partition de l'espace politique va être peu à peu apprivoisée par les citoyens. Est-ce qu'Emmanuel Macron va réussir à implanter une force politique aussi au plan local ? Parce qu'on ne gagne pas ce type d'élection hors contexte d'une élection présidentielle. C'est-à-dire que les législatives post-présidentielles, ce sont des législatives quand même particulières, qui ont une dynamique particulière. D'ici là, il va y avoir d'autres élections, des élections locales, des élections européennes, des élections qui ne répondent pas de cette forme de personnalisation du pouvoir et pour lesquelles il y a besoin d'avoir des machines partisanes implantées localement.
Et par rapport d'ailleurs à l'ancrage local, il faut aussi rappeler qu'il y a eu en septembre, si ma mémoire est bonne, des sénatoriales qui avaient déjà aussi témoigné de cette difficulté pour évidemment une formation extrêmement neuve à avoir des succès aux sénatoriales. Là, le mode de scrutin renforce encore plus justement cette dimension-là, Judith Ventrobe.
Oui, vous avez tout à fait raison. Mais il ne faut quand même pas minorer la victoire, et j'insiste sur ce terme, de Laurent Wauquiez qui a été décrit dans toute la presse de gauche et au-delà comme un épouvantail absolu. On nous prédisait que les Républicains allaient s'autodissoudre dans la semaine suivant son élection à la tête du parti. Ça ne s'est pas produit. Ça n'est pas rien.
Ça permet peut-être quoi alors d'asseoir justement sa légitimité au moins au sein des Républicains.
Sa légitimité était assise par son élection, donc,
qui était quand même contestée aussi en interne. C'est-à-dire, il y a quand même eu beaucoup de contestations de la part de certaines
vous
figures du parti pour dire, ben voilà, c'est pas forcément le candidat qu'on aurait choisi.
Oh non, oui,
ben,
oui.
Si vous écoutez les Xavier Bertrand, même les Valérie Pécresse, enfin, je pourrais en citer d'autres, c'était pas non plus un soutien très enthousiaste.
Non, je pensais que vous parliez de contestation au sens régularité du scrutin.
Non, c'est pas ce que je voulais dire.
C'est contestation au sens de l'offre, l'offre ne nous plaît pas. Mais il suffisait qu'il se porte candidat.
Louis Osalter.
Mais certes, mais la nouveauté, c'est que par rapport à avant. Avant, quand vous étiez le patron du parti de droite, comme l'a pu l'être un Nicolas Sarkozy ou un Jacques Chirac même, par exemple, et que le pouvoir revenait au Parti socialiste et à la gauche, vous étiez, dans un mouvement naturel droite-gauche, le leader de l'opposition. Donc Nicolas Sarkozy, en étant élu président de l'UMP, était de facto le leader de l'opposition. Or, aujourd'hui, dans la nouvelle donne qui est celle de l'élection d'Emmanuel Macron, ce n'est pas une garantie d'être président d'un parti, d'être président de ce qui est toujours le principal parti de droite, pour être dans l'opposition, pour être le leader de l'opposition. Et on voit bien depuis l'élection d'Emmanuel Macron comment des personnalités mènent une lutte sans merci pour essayer ne serait-ce qu'incarner l'opposition, même pas d'être en situation d'être celui qui peut battre Emmanuel Macron dans un hypothétique second tour en 2022, mais d'être celui qui est le plus audible en tant que leader de l'opposition.
Et du coup, est-ce que c'est cette double élection, cette double législative partielle font de Laurent Wauquiez le leader d'opposition?
Elle lui permet de se poser, de faire passer un message qui dit « Regardez, vous voyez bien que c'est nous qui gagnons les législatives. »
On sort d'une période de duel Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, pour savoir qui était le leader de l'opposition. La droite, tout occupée de son élection interne, n'était absolument pas dans le jeu. Là, elle y rentre, et elle y rentre à la première place.
Et c'est peut-être pour ça que Laurent Wauquiez a bien fait de prendre son temps, au sens où, effectivement, Marine Le Pen, déjà abîmée par son débat, a eu beaucoup de mal à rebondir après la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon comptait allumer une contestation sociale à l'automne, ça n'a pas marché. Laurent Wauquiez, pendant cela, préparait méthodiquement sa prise du parti. Il est élu par 74% de 100 000 militants, donc on n'est pas non plus sur une vaste adhésion et sur un vaste mouvement massif. Mais le fait d'avoir pris son temps lui permet effectivement aujourd'hui d'avoir l'épisode, c'est-à-dire c'est le moment Wauquiez, en tout cas à son sens, c'est peut-être le moment où il va pouvoir s'imposer. Il reste à trouver les thématiques, parce que pour l'instant, sur le positionnement politique, on voit que ce n'est pas encore tout à fait défini et il voit beaucoup ce que fait Emmanuel Macron pour se positionner par rapport à lui.
Est-ce qu'en tout cas cet épisode électoral ne vient pas invalider l'idée qu'on a pu beaucoup entendre il y a quelques mois d'une fin des partis politiques traditionnels? Avec des républicains qui allaient finir par disparaître parce que cette structure de parti n'était plus adaptée au monde politique contemporain, Sylvain Bourmeau.
Il faut se méfier de ce genre d'analyse rapide. L'élection présidentielle, c'est une élection particulière. C'est certes une élection extraordinairement importante. Elle a la capacité performative de structurer la vie politique, au moins pour un temps. Mais en face de cette puissance qu'a l'élection présidentielle, de rebattre les cartes, et là on en a eu un exemple parfaitement inédit sous la Ve République, il y a des forces à l'œuvre qui sont qui relèvent davantage de l'inertie, qui relèvent davantage des fonctions politiques traditionnelles imparties au parti politique précisément. Et je crois qu'il faut arrêter avec la métaphore biologique des partis politiques, parler de la mort des partis politiques. Je pense qu'on a affaire à des organisations sociales qui se réinventent, qui sont mues par des intérêts, dont il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'intérêts d'acteurs sociaux qui sont aussi des intérêts personnels et professionnels conjugués. C'est-à-dire que ça va être très intéressant d'observer les prochaines élections locales, d'observer en particulier la manière dont ça va se passer pour les élus du Parti Socialiste. Parce que il y a un véritable décalage aujourd'hui entre ce que pèse entre guillemets le Parti Socialiste, dont on a l'impression qu'il a disparu de la carte, et le nombre considérable d'élus qui sont aujourd'hui dans les assemblées territoriales, dans les départements, dans les villes, dans les régions, des élus socialistes. Est-ce que ces gens-là vont accepter d'être rayés de la carte ? Alors, vont-ils rejoindre le mouvement d'Emmanuel Macron ? Sans doute, pour certains, pour partie. Vont-ils essayer de garder leur mandat avec l'étiquette socialiste ? Sans doute pour d'autres également. Mais là va se jouer véritablement l'avenir d'une organisation qui pourra changer de nom, c'est pas le sujet, d'une organisation politique, elle a déjà changé de nom un certain nombre de fois, qui est aujourd'hui appelée Parti Socialiste. J'ai pris l'exemple de la gauche, mais on pourrait dire exactement la même chose de la droite, en fait. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est cette espèce de mise en tension entre une logique politique qui a démarré avec l'élection d'Emmanuel Macron, dont on ne sait pas très bien si elle va pouvoir s'installer durablement et construire un parti politique, et puis les anciennes forces dont il ne faut pas sous-estimer quand même, je crois, la réalité, et une réalité qui est d'abord et avant tout une réalité, encore une fois, professionnelle, de professionnels de la politique et humaine.
C'est Jérôme Fourquet de l'IFOP qui, dans le Figaro, dit « L'ancien monde fait de la résistance », Judith Weintraub.
Oui, mais il lui va falloir néanmoins s'adapter. Je suis d'accord avec la permanence des attachements. On connaît tous des gens qui n'imaginent pas de voter autrement qu'à droite ou autrement qu'à gauche. Et ils n'ont pas forcément 90 ans en plus. Mais pour revenir à ce que disait Louis Haussalter sur le fait qu'il va falloir que Laurent Wauquiez clarifie sa ligne, ça va être le gros enjeu des Européennes. Les Européennes, en général, parce que l'enjeu est distant, parce que l'idée de l'Europe est toujours une idée qui a du mal à pénétrer dans le corps électoral français. Enfin, on ne voit pas très bien pour qui, pourquoi on vote. En général, on se fait plaisir et les résultats ont peu de signification. Vous rappelez-vous, le Front National avait fait un score extraordinaire. Ça n'avait pas changé la face du paysage politique français pour autant. Mais là, elles interviennent comme, d'une part, la première occasion de vote sanction, mais sanction au sens neutre du terme. Ça peut être approbation, comme ça peut être rejet d'Emmanuel Macron. Puisqu'il n'y en aura pas eu d'autres à part cette succession de partiels, mais c'est la première élection à laquelle tout le monde participera, d'une part. Et puis d'autre part, vous avez trois partis clairs, trois formations politiques claires sur l'Europe, claires dans les grandes lignes. Hein. Rejet de l'Europe, telle qu'elle se fait, disent-ils. Mais en fait, rejet de l'Europe, puisqu'on combat l'existant de la part de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, adhésion à l'Europe, avec ses défauts et avec la volonté de la réformer, d'Emmanuel Macron. À l'heure actuelle, moi, je suis incapable de dire ce que Laurent Wauquiez va défendre sur l'Europe. Et c'est primordial.
Idem pour le Parti Socialiste ?
Pour le Parti Socialiste, il me semble...
Il s'est déchiré à d'autres époques sur l'Europe.
Il me semble que la déchirure est faite. Et que même si Hamon n'avait pas un discours anti-européen, son discours social, sa vision de la société devrait contribuer à le mettre plutôt... En tout cas, à le rendre pas très audible. Parce que le discours social qu'il tient ne se fait pas dans l'Europe telle qu'elle est. Et encore une fois, quand les électeurs votent, ils regardent l'Europe telle qu'elle est.
Louis Haussalter.
Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et je voudrais réinsister aussi sur la permanence des clivages, c'est-à-dire qu'on parle de survivance des partis politiques, mais déjà pour qu'un parti politique survive, la première condition, comme c'est un outil en fait, si on revient fondamentalement à la vocation d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir, et c'est une fois qu'il a le pouvoir, dérouler son programme et évidemment conserver ce pouvoir. Mais tout cela nécessite de se positionner sur un paysage politique. Et aujourd'hui, c'est leur grande difficulté. C'est-à-dire que c'est presque une quête identitaire dans laquelle ils se sont lancés. C'est pas seulement une question de personnalité, c'est aussi une question de corpus idéologique. Pourquoi ? Parce que l'élection d'Emmanuel Macron n'a pas seulement bousculé les appareils et les partis, elle a aussi bousculé le clivage, en ce sens que Macron essaye de redessiner le clivage par rapport à lui. Alors il nous chante l'histoire des progressistes contre les conservateurs, donc lui il est le chantre des forces du progrès, et tous les autres sont des conservateurs réactionnaires qui ne sont pas d'accord avec lui. Il essaye de le redessiner en ce sens. Moi je pense qu'effectivement le clivage droite-gauche, sous quelque forme qu'il soit, continuera à exister. Mais en revanche, ce qu'on met derrière la droite, ce qu'on met derrière la gauche, ça, ça va être la vraie problématique. Et sur les européennes, ça va être effectivement être crucial, parce que c'est là que la droite doit se définir par rapport à l'enjeu européen. Aujourd'hui, Laurent Wauquiez nous raconte une histoire d'Europe des cercles concentriques. Je suis pas sûr que ça fasse vraiment un programme électoral très clair dans le cadre d'une campagne qui va être très bruyante, parce que maintenant, ça sera une campagne avec des têtes de liste nationales et donc un débat entre têtes d'affiche. Mais là, typiquement, sur un sujet fort comme l'Europe, c'est une échéance majeure pour que la droite tente de redéfinir un corpus idéologique. Et elle aura ensuite à le faire sur toute une série de sujets pour lesquels, aujourd'hui, aux yeux des Français, c'est pas clair, aussi bien dans l'appareil de droite que sur les appareils qui se situent à gauche de l'échiquier politique.
Mais Louise Wasselter, par rapport à la difficulté que peut avoir aussi la majorité donc, à se définir justement de manière un petit peu précise sur cette échelle des clivages idéologiques, est-ce que le fait que Laurent Wauquiez ait conquis la présidence du parti sans trop de difficultés et la sorte victorieux malgré tout de législatives partielles, est-ce que ça n'est pas aussi une aubaine pour Macron, c'est-à-dire de marquer une opposition d'une droite très identifiable, disons, ce qui lui permet peut-être lui de passer pour un peu plus à gauche, de la même manière qu'on avait pu dire que Jean-Luc Mélenchon était son meilleur opposant sur la gauche parce que ça le faisait paraître peut-être lui un petit peu plus comment dire un petit peu plus modéré.
Oui, oui bien sûr, mais ça suppose que le balancier continue. Effectivement, à un moment où les analystes disaient que un face-à-face Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ferait tout à fait les affaires d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est Laurent Wauquiez et au moment où Emmanuel Macron essaye notamment de faire passer une loi sur l'immigration que la droite ne renierait pas forcément, ça peut lui servir d'avoir un épouvantail à désigner pour lui dire regardez, lui est vraiment de droite, moi je suis ni de droite ni de gauche. Mais s'il continue pendant tout le quinquennat à essayer de jongler comme ça avec des personnalités, Emmanuel Macron il pourra pas jouer au domino avec le jeu des appareils politiques tout le temps. Ou alors ça voudra vraiment dire que ses adversaires sont tous assez mauvais et qu'ils n'arriveront pas à s'organiser de façon à ce qu'il arrête de jouer avec eux. Ce qui pour l'instant n'est pas exclu non plus, effectivement. Mais là où vous posez une bonne question aussi, c'est au-delà du fait qu'un opposant peut jouer le rôle d'épouvantail, c'est aussi la définition du corpus idéologique de La République En Marche. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose qui fait tenir ce parti novice et qui, comme on vient de le rappeler, n'a pas d'implantation locale, ce qui va leur poser des difficultés, c'est le programme présidentiel d'Emmanuel Macron. Et dès que vous parlez à un député de La République En Marche et qu'on lui dit « Mais attendez, il y a des gens de droite, de gauche dans votre parti, comment ça va ? Comment vous allez tenir pendant tout le quinquennat ?» La réponse automatique et l'élément de langage, c'est « Ah mais on a le programme présidentiel, on est tous d'accord sur les mesures. » D'accord, mais les mesures, elles vont être appliquées au fur et à mesure, et puis il y a des nouveaux chantiers qui vont s'ouvrir. Et puis sur des réformes comme l'immigration, on voit bien que ça tangue un peu. Les réformes sociétales, la partie sociétale du programme d'Emmanuel Macron, on ne sait pas si ça sera en raccord avec toutes les convictions des gens qui sont ralliés à sa bannière. Donc je pense que ce problème de corpus idéologique, il va se poser tôt ou tard à La République En Marche, a fortiori à l'approche des échéances électorales.
Sylvain Bourdon.
La grande chance d'Emmanuel Macron, c'est que la première grande échéance électorale nationale, c'est précisément les européennes. Et c'est une chance pour lui à plusieurs titres. C'est une chance parce que, précisément, c'est une élection qui ne nécessite pas d'avoir des implantations locales. C'est quand même une élection pour laquelle les candidats sont désignés pour constituer des listes par les appareils partisans. Alors, vu l'état calamiteux dans lequel se trouve les partis politiques traditionnels que sont le Parti Socialiste et les Républicains, vous imaginez qu'un certain nombre d'ex-élus qui ont perdu leur siège vont tous se bousculer pour obtenir la place sur les listes aux européennes. Donc en fait, la grande chance de Macron, parce que si par exemple on avait eu des élections municipales ou des élections régionales, la chose aurait été différente, surtout des municipales, à vrai dire. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ces élections européennes et l'Europe en fera les frais, parce que je pense qu'on ne parlera pas tant que ça d'Europe, mais elles serviront en politique interne française au moins à une chose, à clarifier la situation. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on se demande aujourd'hui, et je me permets de le citer, le philosophe Michel Fer a écrit un texte qu'on a publié dans AOC aujourd'hui sur cette question, il avance une hypothèse, une réponse. La question, c'est de savoir si l'espace politique est partitionné en 5 ou en 3. Lui, il dit, il est partitionné en 3, parce qu'aujourd'hui, il y a le bloc majorité autour de Macron, et puis à gauche, il y a un bloc de gauche, et à droite, il y a un bloc de droite. Finalement, il n'y a pas tant que ça de différence aujourd'hui entre Laurent Wauquiez et le Front National, beaucoup moins qu'on aurait pu l'imaginer, et puis il y a le Parti Socialiste est tellement écrasé par Mélenchon actuellement, que voilà. Sauf que ces européennes, elles vont peut-être permettre de savoir si effectivement on a 3 tiers ou si on a 5/5 pour comprendre quelles alliances possibles. Et ce que défend Michel Ferrer, je trouve, avec une grande lucidité dans cet article, c'est qu'au fond, là où Valéry Giscard d'Estaing rêvait autrefois de réunir 2 Français sur 3, eh bien Emmanuel Macron pourra gouverner et gouverner longtemps en ne réunissant 1 Français sur 3 grâce au fait que les 2 autres tiers sont eux-mêmes divisés, coupés, si ce n'est en 2, du moins en 2/3, 1/3, à l'intérieur de chaque camp.
Et ça donc, veut dire que vous considérez qu'il a plus de marge de manœuvre, y compris et un peu à sa droite et un peu à sa
gauche.
Et
c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire qu'il va jouer tantôt l'opposition de droite, tantôt l'opposition de gauche, et c'est le seul moyen, au fond, pour lui, de se maintenir durablement au pouvoir. Ce qui écarte une autre solution qui aurait été possible, qui aurait consistait en fait, mais le Front National s'est tiré des balles dans le pied tout seul, dans la permanence du second tour de l'élection présidentielle. On aurait pu voir un espace politique français coupé en 2, finalement un clivage, je ne sais pas comment on l'aurait appelé, certainement pas gauche-droite, mais qui aurait opposé Emmanuel Macron durablement à une opposition principale qui aurait été le Front National. Mais le Front National a connu les déboires qu'on sait à partir de ce fameux débat télévisé en particulier, mais il y a sûrement d'autres causes, et ce n'est pas le scénario qui s'ouvre à nous aujourd'hui. Mais il reste ce mystère. Est-ce que véritablement Emmanuel Macron va pouvoir gouverner longtemps en ayant 1/3 à gauche, 1/3 à droite, ou est-ce que finalement ces tiers vont d'une certaine façon retrouver de la vigueur, et il suffirait de pas grand-chose pour finalement faire basculer les choses dans un sens ou dans l'autre.
Et s'agissant de la clarification du paysage politique, il faut aussi rappeler que et le Front National au mois de mars et le Parti Socialiste un petit peu plus tard vont avoir leur congrès, et que de ces congrès-là procédera peut-être une clarification comme on a pu le voir avec les Républicains.
Vous êtes optimiste, vous ? Non, vous êtes très optimiste. Évoquer le Front National, précisément l'élection européenne est intéressante parce que c'est sur ce point-là que la différenciation devrait théoriquement se faire.
Ce ne sera pas, on verra.
Devrait théoriquement se faire. C'est toute la contradiction de Laurent Wauquiez, qui continue à être quand même plutôt libéral, plutôt pour l'orthodoxie budgétaire. D'ailleurs, à défaut d'être vraiment crédible en critiquant la réforme du Code du travail par Emmanuel Macron, il s'est rabattu sur un thème où il l'est bien davantage, qui est la non-réduction des déficits, d'autant plus que sur ce terrain-là, il a l'appui de la Cour des comptes et que ça aide. Franchement, quand la Cour des comptes vous dit que le boulot n'est pas fait en termes de réduction de la dette et des déficits, vous avez un puissant écho. Mais donc, Wauquiez se réclame plutôt quand même d'une analyse libérale et non étatiste de la société qui va avec l'Europe telle qu'elle est. En revanche, Marine Le Pen, avec son programme extrêmement social, quasiment identique à celui de Mélenchon, ou en tout cas qui ne déparerait pas à l'extrême gauche, et son appel constant à l'État et son refus de tenir compte des contraintes européennes jusqu'à quitter l'Europe. Je ne sais plus très bien où elle en est, à vrai dire, dans son programme sur « je quitte l'euro, je quitte l'Europe ».
Son programme social, ce n'est pas si clair que ça non plus, aujourd'hui.
Son programme, si, ça reste quand même retour à la retraite à 60 ans, on augmente les fonctionnaires, c'est open bar quand même. Et open bar, c'est pas dans l'Europe.
Louis Osalter.
Je pense qu'il faut quand même garder en tête le clivage qui était celui du second tour de la présidentielle, parce qu'il pourrait nous éclairer. On est un peu dans le brouillard sur l'évolution de ce que va être le paysage politique et surtout du clivage que ça va donner. Si on garde en tête celui de la présidentielle, qui est assez clair quand même au second tour, c'est-à-dire que Macron, c'est quand même l'exact opposé de Marine Le Pen sur à peu près tous les sujets. Et c'est pour ça d'ailleurs que Marine Le Pen disait pendant la campagne que finalement Macron c'était plutôt un bon adversaire au second tour, qu'elle y gagne ou pas, parce qu'au moins le clivage serait clair. Et Emmanuel Macron ça l'arrangeait aussi très bien, y compris sur la laïcité, dans la mesure où Emmanuel Macron est bien silencieux sur le sujet, effectivement.
Quand il ne dit pas que le danger c'est la radicalisation de la laïcité.
Oui, mais du coup on ne sait pas s'il est, voilà, il n'est pas non plus sur la ligne extrême inverse. Là-dessus c'est un peu le flou. Mais je pense que sur le reste des sujets, en revanche, le clivage est quand même assez clair, et c'est pour ça aussi que ça arrangeait bien Emmanuel Macron d'avoir Marine Le Pen en adversaire, déjà parce qu'il était assez sûr de gagner, et ensuite parce qu'il pouvait évidemment la repousser dans l'extrême par rapport à ses idées à lui. Si on conserve ce clivage, on peut peut-être formuler l'hypothèse en simplifiant que finalement Emmanuel Macron serait le président incarnation de la France d'en haut et qu'en face de lui, il y aurait la France d'en bas. C'est très simplificateur, mais ça permet en partie, et d'ailleurs c'est ce que disent les sondeurs quand même beaucoup en ce moment, c'est des premiers de cordée finalement contre ceux qui ne se retrouvent pas dans la politique d'Emmanuel Macron.
C'est sur cette fracture-là d'ailleurs que joue Laurent Wauquiez aujourd'hui.
En effectivement, disant, et c'est pour ça que je pose la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est quand même décrédibilisée, et donc là, toute la question est de la personnalité qui sera capable politiquement d'incarner cette opposition et donc de représenter cette fameuse France d'en bas. Alors aujourd'hui, c'est le grand concours. Marine Le Pen disait qu'elle était la France des oubliés, sauf qu'aujourd'hui, elle est décrédibilisée, elle a du mal à s'en remettre. Et Laurent Wauquiez, aujourd'hui, déboule sur ce positionnement en disant « je suis la France des classes moyennes », il veut faire revenir les classes populaires vers la droite. Le problème de Wauquiez, au-delà d'un problème pour l'instant de notoriété aussi, parce que tout le monde ne le connaît pas, c'est qu'il est aussi marqué, déjà il vient de la droite, il vient d'une droite assez dure, il a été ministre de Nicolas Sarkozy, c'est pas non plus le nouveau monde Laurent Wauquiez. Donc pour l'instant c'est compliqué pour lui, compte tenu des étiquettes, compte tenu de son parcours, compte tenu de ce qui a été ses idées qui ont quand même pas mal évolué, de se prétendre comme l'incarnation de cette France qui s'oppose à la définition, aux orientations que veut définir Emmanuel Macron en tant que président.
Oui, mais il y a aussi un problème de cohérence. On peut pas dire Emmanuel Macron n'a pas été assez loin dans la réforme du code du travail, ce qui est à peu près le discours que tient Wauquiez, prétendre représenter la France d'en bas. On peut pas être libéral sur le travail et anti-européen, c'est pas possible.
Pour quelle raison, à votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, dans ce grand concours, Jean-Luc Mélenchon a l'air quand même beaucoup moins visible qu'il ne l'était encore il y a quelques semaines? Est-ce que c'est simplement parce que les médias s'intéressent un petit peu moins à lui, qui aurait eu un effet de mode, ou bien parce que l'actualité politique a fait que les thèmes qu'il portait étaient moins présents, justement, ou bien est-ce qu'il y aurait aussi un essoufflement, peut-être, du positionnement?
Il y a une série d'erreurs. Il a passé un temps fou à admettre sa défaite, si tant est qu'il l'ait admise à l'heure où nous parlons.
Enfin, une fois qu'il avait admise, il y a quand même eu un activisme des députés de la France Insoumise.
Ça a mis plusieurs mois. Ensuite, lui, sa stratégie résidait dans la fusion entre le déferlement des protestataires dans la rue et son petit groupe protestataire à l'Assemblée. La fusion ne s'est pas faite, faute de combattants.
Il a reconnu qu'il avait échoué sur la réforme du travail.
Au passage, il s'est brouillé assez sérieusement avec le mouvement syndical, puisque non seulement il a échoué, mais il a reproché au mouvement syndical d'être responsable de cet échec. Donc il a scié une à une les branches sur lesquelles il était assis.
Cela dit, il reste peut-être quelques branches supplémentaires. On voit quand même que le climat social aujourd'hui est peut-être susceptible de changer. Il y a des oppositions qui se manifestent sur la réforme des universités. Les fonctionnaires qui commencent à considérer qu'ils ne vont pas être très bien traités. Le pouvoir d'achat qui n'augmente pas, en tout cas, c'est plutôt comme ça que c'est perçu. Sylvain Bourmeau, ça fait beaucoup de thèmes, en tout cas, qui pourrait peut-être donner à Jean-Luc Mélenchon davantage de visibilité.
Je ne vais pas vous dire que le mouvement social n'est pas possible, que la France s'ennuie, comme on disait il y a 50 ans. Ça peut toujours arriver. Mais vous savez ce qui s'est passé après mai 68?
Rappelez-moi, j'étais trop jeune.
Moi, ce que j'ai retenu, moi aussi j'étais trop jeune, mais ce qui s'est passé, ce que j'ai retenu de cette histoire, c'est que le mouvement social n'a pas provoqué une victoire de la gauche, en tous les cas, pas immédiatement. Bien au contraire, elle a provoqué un retour à une droite plus dure et en réaction à mai 68, des mesures assez dures. Alors certes, on a vu les effets avec l'élection de Valéry Giscard d'Estaing en 74 et puis la victoire de la gauche en 81, qui est probablement à certains égards le produit de ce qui s'est passé à la fin des années 60.
Cette droite que vous dites dure a quand même intégré pas mal des réformes demandées par
Ce qui s'est passé dans l'université, etc. Enfin, il y a eu une reprise en main quand même très 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 forte juste après le mouvement. Donc ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas bénéficié à la gauche, qui n'a pas gagné
la gauche
l'élection.
A perdu parce que la droite de l'époque a eu l'intelligence
L'espèce de physique sociale dans laquelle espère Jean-Luc Mélenchon, qui consiste à croire que parce qu'on va mettre de 500 000 ou 1 million de personnes dans la rue, on va gagner des élections, je pense, repose sur une erreur d'analyse considérable. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la politique de la même façon à l'échelle des gens qui vont manifester et qui représentent 2-3 millions de personnes dans le pays, et puis à l'échelle du corps électoral qui est considérable, qui concerne 40 millions d'électeurs pratiquement. Et c'est tout le drame de la politique telle qu'entendue par Jean-Luc Mélenchon, qui ne peut trouver à s'exprimer au fond que dans ces moments quasi plébiscitaires de l'élection présidentielle, et qui, hors ces moments-là, peinent à véritablement exister, parce que là, on est reparti dans une, heureusement, dans une démocratie parlementaire, dans la représentation, et c'est ce que nous montrent ces élections locales dont nous parlions au début.
C'est le phénomène du donjuanisme, c'est la conquête du pouvoir qui l'intéresse, et pas du tout l'exercice du petit pouvoir qu'il a pu conquérir.
La politique que mène Emmanuel Macron aujourd'hui ne donne pas suffisamment de carburant à Jean-Luc Mélenchon, à la France insoumise, Louis Hausselter ?
Moi, je pense plutôt qu'il y a un problème de méthode chez Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il est resté bloqué dans des schémas, dans le schéma qui est celui de la grande mobilisation collective pour avoir des conquêtes sociales, pour lutter contre des réformes libérales, viendrait mobiliser des pans entiers de la société contre la politique du président de la République.
Et, aboutir à une victoire électorale, ce qu'on a rarement vu dans l'histoire.
Effectivement, hein. Non mais voilà, déjà la coagulation du mouvement syndical avec les résultats des élections, elle est très rare finalement, si on regarde l'histoire. Mais surtout, je pense qu'en fait, c'est un schéma qui n'existe plus tellement.
Qui n'est pas tant pratiqué que ça, si, par la France Insoumise. Quand on voit la façon dont les députés, justement, autour de Jean-Luc Mélenchon, sont intervenus dans le cadre de leur travail parlementaire, c'était pas non plus pour appeler au grand soir.
Oui,
il y avait
sûr.
Quand même aussi tout un travail d'interpellation qui a été fait sur des dossiers bien précis, non ?
Oui, enfin, ça reste assez microcosmique. Le grand rêve de Jean-Luc Mélenchon, c'était surtout de mettre des centaines de milliers de personnes dans la rue pendant l'automne. Il nous a même promis, je sais pas, 1 million de personnes sur les Champs-Élysées. Ouais. Tout cela, on ne l'a jamais vu, parce que je pense qu'en fait, c'est aussi quelque chose, ça nous dit quelque chose de l'époque. L'époque n'est plus forcément au grand rassemblement, on va dire, qui peuvent rassembler des catégories entières. Aujourd'hui, on est plus dans un phénomène d'individualisation qui fait que chacun essaiera de voir dans telle ou telle réforme quel intérêt il pourrait en procéder. Et Emmanuel Macron joue de ça. Parce que, rappelez-vous, sa campagne présidentielle, il avait quand même une campagne présidentielle qui était très catégorielle. Il s'adressait aux enseignants en leur disant ça, aux militaires, il leur disait ça. Il prenait un peu les Français catégorie par catégorie. Il leur avait demandé, d'ailleurs, dans un premier temps, à travers ses marcheurs, ce qu'il voulait. Et il a bâti un programme présidentiel catégoriel en fonction de cela. Et c'est pour ça que le logiciel de Jean-Luc Mélenchon, qui repose plus sur le collectif, sur la force de la mobilisation collective, aujourd'hui ne fonctionne plus, parce qu'Emmanuel Macron a eu une meilleure lecture du logiciel des attentes des gens. Et je pense qu'effectivement, alors on verra, il faut jamais dire jamais, on a vu que des défilés très nombreux, ça pouvait encore intervenir, je pense à la manif pour tous, je pense à la loi El Khomri, mais pour l'instant, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, on a l'impression qu'il a réussi à percevoir la façon dont résoudre les problèmes catégoriels des Français. Et en face, Jean-Luc Mélenchon est coincé. Il n'arrive pas à agréger différentes catégories, les étudiants, les chômeurs, les travailleurs, les précaires, à sa contestation du gouvernement. Et c'est pour ça que, pour l'instant, ça n'a pas de prix, son opposition.
Je ne crois pas que l'approche catégorielle soit ce qui est caractérisé la stratégie d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Au contraire, il me semble qu'il s'est appuyé sur une évolution, alors qui n'est pas due au fait que les mouvements de masse sont passés de mode, mais une évolution qu'on perçoit dans à peu près tous les domaines, qui est le sentiment de l'inéluctabilité de la fin de l'exception française. Pendant très longtemps, dans des tas de corps de métier, on savait très bien qu'on vivait un régime pas très raisonnable, les 35 heures en étant l'acmé, si je puis dire. Et Emmanuel Macron, qui avait une campagne où il parlait beaucoup de l'extérieur quand même, beaucoup de ce que faisaient nos voisins européens et des réformes les plus libérales, puisque c'est le mot qui convient d'employer, n'a pas caché à ses électeurs que c'était ce dont il s'agissait, d'en finir avec une certaine exception française. Et les gens qui ont voté pour lui ont adhéré à ça, premier tour.
Juste d'un mot pour terminer, Sylvain Bourmeau. Il y a quelques jours, dans le journal Le Monde, il y avait un article assez intéressant sur les tribunes qui éclosent, qui se multiplient dans les journaux, dans les sites, comme le vôtre, je rappelle, AOC, en disant, c'est peut-être aussi le signe que finalement, l'opposition, elle retrouve aujourd'hui le terrain intellectuel, parce qu'elle n'a peut-être plus la possibilité de s'exprimer à l'intérieur des partis politiques traditionnels. Vous en pensez quoi ?
Je suis pas certain, parce que je suis pas sûr que les prises de position dont vous parlez, qui sont des prises de position collectives qu'on a vues dans Le Monde, dans Libération, à travers certains textes, pas dans AOC, parce que ce sont des textes d'auteurs, ce sont pas des pétitions, en quelque sorte. Au fond, elles n'ont jamais été très articulées avec les partis politiques. Ce qu'on voit là, c'est qu'il y a une vraie déception de la part des intellectuels, qui, pour la plupart d'entre eux d'ailleurs, n'ont jamais été dupes hein, vis-à-vis des politiques d'Emmanuel Macron. Et la question de l'immigration, de ce qui se passe à Calais, joue un rôle absolument décisif en la matière. Mais ça ne fait que traduire le divorce qui est déjà très ancien et profond entre ce monde intellectuel et le monde politique, ni plus ni moins.
Eh bien, merci beaucoup Sylvain Bourmeau, Judith Ventrobe
et
Louis Osalter d'avoir participé à cette discussion. Merci également à toute l'équipe du Grain. Antoine Dulster, Virginie Leduau, Fanny Richer, Antoine Tricot, Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Cédric Chatelus, Benjamin Vignal et Célia Dufour. Dans un instant, vous allez retrouver Arnaud Laporte, toujours depuis Le Bel Air, le bar de Radio France pour La Dispute.
On parlera de cinéma dans 3 minutes. On parlera de Clint Eastwood, de Coralie Fargin et de Xavier Legrand. Et demain, dans Politique, Hervé Gardette, à midi.
À midi, de midi à midi 30, la fabrique de la politique étrangère. Ce sera avec le directeur de l'IFRI, Thomas Gomard.
Bon, mais on sera évidemment à l'écoute. 19h, France Culture, les titres de l'actualité avec Mathieu Laurent.